truly calamity, scream insanity, or are you ever gonna be another great fan of me? Break.
Vous écoutez une émission de radio. Ne déconnectez pas votre poste. Bienvenue sur 93.9 FM. Vous écoutez concrètement.
Le sujet que l'on va explorer aujourd'hui est l'un des plus brutaux que j'ai pu traiter dans Findings. Des affaires de jalousie, de meurtre et de radio. Sans plus attendre, laissez-vous plonger dans l'iceberg de concrètement.
Étage 1, la minute de Sewill.
Pour ceux qui connaissent pas, Sewill est l'un des personnages principaux de Concrètement. Contrairement à Enak, il n'apparaît pas dès le premier épisode. En effet, on l'entend pour la première fois dans l'épisode 2, et il faut attendre l'épisode 3 pour entendre ce qui nous intéresse, la minute de Sewill. La minute de Sewill, c'est quoi ? Pour faire court, c'est une sorte de petite pastille rigolote au milieu de chaque épisode. Sewill fait ce qu'il veut, c'est rigolo, voilà. Il se trouve que la minute de Sewill va trouver beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Tellement de succès que Sewill va finir par devenir une célébrité internationale, une icône du cool et de la radio. Et vous vous doutez bien, c'est à partir de là que les problèmes commencent. Le vendredi 31 mai 2024, la police rentre chez Sewill. Il trouve un appartement saccagé, des photos d'Enak partout sur les murs. Il y a aussi un mannequin à son effigie planté de 11 couteaux, pendu par le cou depuis le plafond. Dans la pièce d'à côté, il trouve Sewill, couvert de boue, hurlant à la mort. Quand il rentre dans la pièce, il le voit en train d'égorger un hamster au-dessus d'un pentagramme. Il répandait le sang du pauvre animal sur une énième photo d'Enak. C'est la fin de la minute de Sewill.
Pas vrai, pas vrai, mensonge, diffamation! J'ai jamais fait ça! Et j'ai jamais tenté de maudire Enak et ils ont jamais rien prouvé!
Mais Sewill, calme-toi, c'est qu'une blague!
Une blague! Et pas pour moi! C'est ma réputation qui est en jeu! Mais tu t'en fiches! Et pourquoi c'est toujours moi? C'est jamais ton dos dans cette émission! Alors que là, c'est toi! C'est toi qui as juste le seum parce que Feldup a jamais répondu à ton mail!
Alors oui, j'ai envoyé un mail un peu tardif, et oui, j'ai été un peu naïf, mais au bout d'un moment, faut que je fasse une intro, quoi qu'il arrive! Il y en avait pas sur le dernier épisode, on peut pas faire ça deux fois de suite.
Bah ça devrait pas être mon dos.
Mais tu veux que je fasse quoi à la place là? C'est le 16ème épisode, on a tout fait. Si je peux rien faire de nouveau, moi je vais commencer à recycler. Tu sais quoi, je vais refaire un rap. Ça marche toujours un rap.
C'est bon, j'ai compris, lance le générique.
Vous écoutez toujours une émission de radio nommée Concrètement.
En vrai, c'est un peu chaud, Internet. Je sais, on se répète, c'est le 3ème épisode à la suite qui traite de ça, mais bon, au bout d'un moment, faut bien boucler l'effet trilogie. Parce que récemment, on a beaucoup parlé d'Internet en évoquant des choses qui sont proches de nos cœurs, en bien comme en mal. En bien, pour la nostalgie des années de notre adolescence, en mal, pour la machine de radicalisation qui absorbe les gens de notre génération et dont on a vu l'impact en temps réel, et qui nous a poussé à réécrire ce paragraphe plusieurs fois depuis notre dernière diffusion. Bref, si on suit ce chemin correctement, c'est impossible de ne pas écrire l'épisode que vous écoutez à l'instant. Car notre rapport à Internet est marqué par un affect fort, celui à l'horreur. Et par là, on entend contenu cherchant explicitement à se rapprocher de la notion d'horreur telle qu'on peut l'observer dans l'art et la culture. L'analogue horror, les creepypastas, et même les ARG, bien qu'on va peu en parler ici, vous voyez le délire, quoi. Si c'est un fait que l'on aime ces choses, alors pas besoin de bafouiller, on peut se poser directement la question, qu'est-ce que ça veut dire de grandir avec l'horreur d'Internet ? Première chose, grandir avec l'horreur d'Internet, ça veut dire qu'on a peur d'Internet.
Non, non, pas moi.
Oui, évidemment, mais c'est pas...
J'ai pas peur d'Internet. J'ai tellement pas peur d'Internet que c'est moi qui fais peur sur Internet.
Wow, ça veut dire quoi, ça ?
Je vous ferais dire que je suis un auteur très réputé de creepypasta. Mais bon, si vous le savez pas, c'est peut-être que vous avez pas cherché à le savoir.
Ouais. Alors, c'est bien beau tout ça, mais t'as une raison pour interrompre mon émission comme ça, là ?
Bah oui. Il se trouve que je dis ça parce que je compte lancer mon propre podcast, en fait. Et que j'aimerais bien pouvoir vous lire une histoire pour faire la pub de...
Ouais, bon, la promo, c'est marrant deux secondes, mais là, on a des trucs à faire, en fait.
Mais...
Ouais, bah, désolé, je dois reprendre. Donc, on n'a pas peur d'Internet dans un sens littéral. Genre là, ça va, je peux aller sur YouTube, vous me comprenez. C'est juste que, si vous êtes assez vieux pour vous dire que l'adolescence, quand même, ça date, alors vous avez probablement connu une époque où Internet, bien qu'à peu près démocratisé, était encore assez obscur et peu sécurisé, pour potentiellement inciter du doute et de la peur chez un enfant. Je précise pour les plus jeunes, mais il faut comprendre. Avant, Internet était un lieu. C'était un lieu physique dans la maison, coupé du monde, dont l'étrangeté était unique, intrinsèque. Aujourd'hui, Internet est partout, facilement accessible, et tellement capitalisé que le monde réel semble être un reflet du web. Les frontières avec notre monde se brouillent, les interactions numériques sont de plus en plus sécurisées, les réseaux sont rembourrés sur les points coupants pour éviter de brusquer. Mais cette situation a mis du temps à arriver. Pendant des années, c'était le Far West. Du coup, les manières dont Internet articulait les dangers du monde réel étaient terrifiantes, puisque tout était confiné à un espace fermé, accessible à tous, mais aussi unique en son genre. Y a quoi de faire peur aux enfants ? Nous avons peur d'Internet parce que nous sommes nés juste au bon moment pour avoir fait son expérience à l'âge où nos peurs se formaient. Une époque où des sources de cauchemars pouvaient apparaître au détour de chaque page web un peu douteuse. D'ailleurs, personnellement, je fais des cauchemars dans lesquels Internet apparaît. C'est un fait. Ça ne concerne que moi, mais c'est un fait. Par ailleurs, tant qu'on y est, on va pas parler de gore dans cet épisode parce que ça ne relève pas d'un quelconque élan artistique ou créatif. Mais le traumatisme est tellement gros pour tellement de monde, c'est revenu si souvent dans nos recherches qu'on est obligé de le mentionner à un moment ou à un autre. Donc on le mentionne là, le gore semble jouer sa part dans tous ces débats. Mais du coup, quand est-ce que le contenu d'horreur propre à Internet rentre dans l'équation ? Quand est-ce qu'on se met à parler de Slenderman et d'analogue horreur ? Eh bien, à partir du moment où cette horreur puise dans les codes d'Internet pour faire peur. Par exemple, Internet est un terreau fertile pour les légendes urbaines. Paradoxalement, sa naissance pousse à son paroxysme l'ère de l'information, où toute légende urbaine est donc théoriquement réfutable. Avec une contradiction pareille à l'œuvre, ça devient super fun de se rabattre sur la création de légendes urbaines fictives. Vous mettez des références abusives à nos vies numériques et connectées, vous obtenez les creepypastas, une forme d'horreur propre à Internet et ultra populaire chez les plus jeunes. Au moins pour notre génération, peut-être plus tard, je sais pas, je suis trop vieux pour estimer. Et vu que notre peur déjà présente du web joue des mêmes codes, et ça peut fonctionner. Sauf que c'est cringe. Mais ça, c'est un autre problème. Autre exemple fort, YouTube. C'est un mode de diffusion massif pour la Gen Z depuis bientôt 20 ans. C'est normal que reprendre les codes de YouTube pour faire peur, bah ça marche et que ça nous marque au long terme. Depuis mon enfance, je sais que n'importe quelle vidéo est passible d'être un screamer ou de dérailler vers de l'horreur à un moment ou un autre. Ça n'arrive jamais. Mais le réflexe de méfiance est toujours là. Regardez le contenu d'horreur moderne sur YouTube, vous remarquerez que cette tension, cette réaction pavlovienne, cette peur connue et acquise de tous, est souvent au centre de ce genre de vidéos.
Ah ça, de ma propre expérience, je peux te dire que c'est vrai.
D'accord, et du coup ?
Bah, je dis juste qu'en tant que créateur de contenu, d'horreur qui plus est, je confirme ce que tu dis.
Tu vas vraiment interrompre l'émission à chaque fois que t'es d'accord avec moi ? Parce que ça risque de faire long là quand même, donc si t'es lent, c'est ton problème, mais viens pas ralentir mon émission.
Bah c'est bon, pas besoin d'être tendu comme ça.
Je suis grave pas tendu.
Bah, si t'étais vraiment pas tendu, t'aurais la patience pour me laisser raconter la première creepypasta exclusive de mon nouveau podcast. Mais bon, si tu veux montrer à tout le monde que t'es tendu, c'est pas mon problème.
D'accord, d'accord, mais tu fais vite.
Ok, ok. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire sombre. Il y a quelque temps, il y avait un jeune homme du nom de Kane. Il était sympa et beau gosse, mais personne ne le remarquait. Son rêve, c'était de lancer une chaîne YouTube, mais il avait pas assez confiance en lui. En effet, il se faisait toujours rabaisser au travail par son pire ennemi, Sioul. Sioul, il était toujours obligé de se moquer de lui et de se vanter de sa propre chaîne YouTube qui s'appelait RPG. Un jour, Sioul, il l'a humilié devant tous leurs collègues. Il y avait leur patron, qui était un gros monsieur très énervé, et une meuf qu'il avait jamais vue. Et du coup, il a craqué. Il a caché ses larmes mouillées et il est rentré chez lui en se jurant qu'il allait se venger en temps venu. Sauf que c'était la pleine lune. Et Kane, il pleure et il s'énerve et il est tellement fou de tristesse et de rage devant la pleine lune qu'il se transforme en une sorte de créature comme un loup, mais avec la forme d'un mec grave baraque.
Oui, d'un loup-garou quoi.
Déjà, on dit lican et non, c'est pas ça.
Bon, écoute, c'est bien beau tout ça, mais va falloir qu'on avance en fait.
Mais t'avais dit que je pourrais...
Tu sais quoi ? Si on a le temps, tu pourras reprendre.
Tu promets ?
Ouais, de ouf. Du coup, grandir avec l'horreur d'Internet, ça veut dire qu'on a peur d'Internet. Et que c'est pire parce que l'horreur d'Internet s'inspire de cette peur d'Internet. C'est un cercle vicieux. Mais ça donne naissance à un truc plutôt cool. À savoir que, pour beaucoup d'entre nous, Internet a été une porte d'entrée vers l'horreur au sens large. Et face à ce constat, on s'est quand même beaucoup tourné vers Internet. Logique. Je veux dire, on fait nos premières expériences avec ce qui nous est le plus accessible. C'est pour ça que la génération de nos darons a une culture de l'horreur qui est autant liée aux films d'exploitation sur VHS. Bref, comme on a pu le dire, l'horreur d'Internet s'inspire de choses qui nous faisaient déjà très peur, donc les liens se font facilement. Et ça permet de pousser le curseur très loin niveau création. Pendant longtemps, le contenu sur Internet ne répondait pas nécessairement à une logique pécuniaire. Non pas que tout est géré par la thune aujourd'hui, mais quand même, les logiques d'engagement sont tellement présentes que même ceux qui ne se soucient pas des questions de revenus opèrent dans des logiques similaires à ceux qui l'ont en tête. Bref, ce qu'on veut dire, c'est que pendant longtemps, les créateurs ne songeaient même pas à considérer des logiques de rentabilité pendant l'acte de création. L'horreur, au cinéma particulièrement, est une forme qui laisse beaucoup d'espace à la création indépendante. Mais ces tenants les plus populaires, ceux qui ont le plus de chances de façonner les masses, passent par la moulinette de différents systèmes de rentabilité. Les films indés qui percent sont souvent juste de très bons films qui s'avèrent ultra rentables parce que compatibles, d'une manière ou d'une autre, avec le cinéma grand public et son industrie. En gros, pendant longtemps, Internet n'était pas obligé de se poser des limites par rapport à l'expression de son horreur parce qu'il n'y avait pas la peur de flopper niveau thune. Pour le meilleur, dans notre cas, pour le pire, quand quelques edgelords ont la bonne idée de diffuser du contenu choc pour pas grand-chose. Mais bon, il y a des limites morales, tout de même. Disons juste que, sauf circonstances exceptionnelles, si un film d'horreur est trop extrême, alors il risque de ne plaire qu'à une niche qui cherche spécifiquement ça. Sur Internet, pendant longtemps, la question se posait moins. Donc un créateur d'horreur sur le net peut se permettre de s'essayer à des formes de peur qui font vraiment peur, quitte à brusquer. Pourquoi en avoir quelque chose à foutre ? Y a pas de conséquences. Parfois, et j'ai même envie de dire souvent, c'est très cheap. Les screamers, par exemple, c'est abusé, c'est de mauvais goût. Mais vous verrez jamais un truc de cette intensité dans un film. Ce serait irresponsable sur le plan financier. Ce serait rompre la confiance que vous avez avec le spectateur. Difficile de tenir l'attention après ça. Sur Internet, le jeu est différent. Bref. Internet avait parfaitement raison d'être notre porte d'entrée vers l'horreur. D'autant que ces codes nous font flipper à très juste titre, même au-delà du trauma dont on a pu faire état au début de l'épisode. Disons-le franchement, l'horreur d'Internet a des raisons de nous faire plus peur que d'autres formes d'horreur. Déjà, il faut le dire, il y a un facteur d'interactivité qui joue beaucoup. C'est la même idée que dans le jeu vidéo. Quand nous nous mettons en face d'un contenu d'horreur sur le net, nous sommes victimes de notre peur tout en étant forcés d'engager avec ce qui la cause. Une seule différence pour le net, l'engagement dont vous faites preuve est purement le vôtre. Vous cliquez de votre plein gré sur une vidéo YouTube, vous cherchez de vous-même un lien, un article, une histoire. En gros, l'interaction a plusieurs degrés d'éloignement avec l'œuvre. En vérité, il n'y a pas de mécanique d'interaction à proprement parler. Nous sommes directement à la source, et nous ne pouvons que choisir ou non de regarder ce sur quoi on clique. Bref, il y a un frottement entre le fait de devoir interagir, d'être mis au centre de la faute dans l'engagement avec le contenu, et le fait d'être dénué de presque tout pouvoir face à ce qui est mis en face de nous. Et contrairement aux jeux vidéo, il n'y a pas de système de jeu en dessous de ce choix. Il n'y a pas de logique de design. Sauf pour les ARG. Là, il y a des systèmes de jeu, effectivement, mais de 1, l'engagement est presque toujours ancré dans un jeu de piste qui reprend des codes d'interaction d'Internet auxquels nous sommes pleinement accoutumés, ce qui efface d'éventuels degrés de distance. Et de 2, bah, la plupart des gens qui font expérience d'un ARG le font à distance de l'interaction. Donc, taisez-vous, c'est nous qu'on a raison et qu'on est trop fort et conventionnellement beau gosse. Au-delà du frottement entre interaction et passivité, on peut noter que le facteur de mystère du web et la peur de l'inconnu qui l'accompagne joue aussi beaucoup dans les capacités de peur du net. Évidemment, aujourd'hui, Internet est centralisé autour d'une dizaine de sites et d'applications. Ça crée un sentiment de sécurité. Tout est géré par des grosses boîtes qui ont tout intérêt à ce que tout se passe bien. En conséquence de quoi, il est facile et efficace de jouer sur une disruption de cette sécurité pour faire peur. C'est pas une coïncidence si la frayeur totale des gens vis-à-vis du Deep Web apparaît au moment où tout Internet semble se centraliser. Toute personne qui est en dehors des gros réseaux sociaux peut donner l'impression que son absence est une preuve qu'elle ne veut pas être repérée, notamment par ses systèmes de surveillance. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'Internet est un vaste abysse de données, de contenus, d'interactions. Si nous sommes en mesure d'interagir avec ces sphères les plus populaires, ça interroge sur ce qui se passe en dessous. Et c'est pire quand on a grandi à une époque où aller sur plein de sites différents était la norme. Un océan profond, inconnu, se trouve juste en dessous de nous. Nous en avons conscience, et il y a un appel du vide. L'horreur d'Internet joue de ce sentiment, et ça fait super peur. Et ça pousse l'idée très loin. Notre rapport à l'horreur d'Internet relève presque de la pulsion morbide. Nous voulons cliquer sur cette vidéo qui a l'air flippante parce que pourquoi pas ? J'ai dit pourquoi pas. Putain, Swill, tu fais quoi?
Quoi, moi?
Bah, je pose une question, t'es censé me mêler, et après ça lance la minute de Swill, non?
La question, elle est pas... En vrai, j'ai la flemme. Ça te dit pas, on skip.
Mais on peut pas couper des parties de l'émission comme ça, en fait. Faut un truc, au moins, pour combler le temps.
Ah ouais, c'est con, ça! Non, vraiment, je vois pas comment une petite histoire d'une minute, même pas, la suite d'une histoire que vous avez déjà entendue pourrait nous aider. Oh non, vraiment, je vois pas! C'est un truc de fou!
Vas-y, lance la fin de ton histoire, c'est bon, t'as gagné.
Du coup, quand on s'est quitté, Kane s'est transformé en homme-loup bien galbé. Mais là, il s'est remétamorphosé en humain pour aller faire une petite visite chez son ami, ou devrais-je dire, son ennemi, Sioul. Du coup, il était en humain pour faire plus discret. Sioul l'a invité à rentrer. Il faisait semblant d'être son ami. Étrange. Bizarre. Louche. C'est pas normal. Mais Kane rentre quand même dans l'appartement, qui est nul. En rentrant, il voit que Sioul était en train de tourner une vidéo pour sa chaîne YouTube RPG, diffusée sur Radio Campus Paris, et qu'il était avec son ami avec qui il fait l'émission, et là, il a compris. Il a vu qu'en fait, Sioul était en train de le filmer, et qu'il essayait de l'énerver pour filmer sa colère et la mettre sur Internet. Il voulait réveiller le démon pour faire du buzz. Sauf que ça s'est retourné contre lui, parce que Kane a couru jusqu'à la fenêtre pour bien voir la pleine lune, et du coup, il s'est retransformé en loup-garou, et ainsi, il a pu tuer Sioul bien bien sale, genre il lui a fait vraiment mal, et il a vu du sang partout, mais l'ami de Sioul a pu s'échapper avec la caméra qui a tout filmé. Et depuis ce jour, tout le monde a peur de la vidéo maudite où Kane tue Sioul. Et depuis, Kane a pu démarrer sa chaîne YouTube et il a beaucoup d'abonnés, genre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les meufs, elles le trouvent grave beau.
Waouh. Bravo, Enak.
Merci.
Et c'est parce que... On va reprendre. Du coup, toutes les choses que nous avons pu citer, interactions, pulsions morbides et d'autres encore... Ces éléments sont légitimes de notre frayeur au point où elles créent une sorte de magnétisme vers l'horreur d'Internet. Quand on a été profondément terrifié par le web, l'idée de flirter avec les limites de sa peur, logiquement, elle est particulièrement excitante, sur tous les fronts. C'est peut-être pour ça que, en passant en revue l'impact que l'horreur a sur la pop culture, on s'aperçoit que ses tenants propres à Internet ont une place toute particulière dans notre cœur. Bon, pour expliquer ça, c'est plutôt simple, il y a déjà une grosse question générationnelle. Forcément. On a grandi avec ces trucs, ces histoires, ces identités visuelles. On le dit depuis le début, on a un rapport doublement personnel à l'horreur d'Internet. La nature du web a informé nos peurs, son contenu d'horreur a joué dessus au point où nous avons développé une sorte de syndrome de Stockholm. Les extensions de ce rapport dans la culture populaire sont automatiquement quelque chose qui nous touche. Quand ça arrive, il n'y a pas des masses d'objets de pop culture qui assument une influence d'Internet. Tout va très vite sur le web. Faire de l'art, ça prend du temps, et rester fixé trop longtemps sur une chose augmente le facteur de cringe. Mais ceux qui ont grandi avec l'horreur d'Internet sont maintenant en âge de créer des choses. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Les films de Jane Schoenbrunn, la série The Curse qui s'inspire du taf d'Alan Resnick, même la percée de Ken Pixels qui l'amène à réaliser un film à l'âge de 18 piges, toutes ces choses provoquent en nous un sentiment étrange. Une sorte de fierté mal placée pour l'existence même de ces œuvres. Et... un certain magnétisme qui nous pousse vers elle. C'est abstrait. Et même quand on étend la question à de l'art plus lointain, ça marche toujours. Sur concrètement, l'un de nos films préférés dans le genre, c'est Kaero de Kiyoshi Kurosawa. Le film a drop en 2001. Comme moi. Et même si ce long métrage traite littéralement d'Internet, il y a un constat qui pend. L'attraction que l'on éprouve pour l'horreur issue du web semble s'étendre à des perspectives artistiques qui sont éloignées de notre monde ultra connecté. On dépasse les limites du temps. La vérité, c'est que le rapport entre Internet et horreur est animé par un fait que l'on n'a même pas pu évoquer tellement il est évident. Si chaque chose de notre monde a un alter ego numérique, cela veut dire que les pires horreurs de ce monde sont accessibles à chaque personne. Vous comme moi. Si des films comme The Ring, Lake Mungo ou même Videodrome ont l'air d'être profondément liés à Internet alors que ce n'est pas le cas, c'est simplement parce que leurs intrigues font beaucoup plus sens à notre ère d'Internet contemporaine, tout en flottant, de près ou de loin, avec l'époque où on allumait un ordinateur pour la première fois. Quand vous avez grandi à une époque où Internet était encore assez peu régulé et centralisé, laissant légitime l'idée d'avoir peur du net, et que votre exposition principale à l'horreur a pris soin d'intégrer toutes ces questions dans son identité, ouais, c'est logique que les artefacts de pop culture qui en parlent vous touchent. Bon, quelle est la grande conséquence ? la grande conclusion de tout ça? Pour nous, en des termes simples, c'est que grandir avec l'horreur d'Internet, ça signifie avant tout qu'on a créé de l'horreur à cause et pour Internet. Ou, du moins, c'était le cas à minima quand on était plus jeune. Parce qu'Internet encourage et rend accessible la création tout court. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer du contenu, entre de gros guillemets, pour le meilleur et pour le pire. Et surtout parce que, dans cet acte créateur qu'on peut facilement produire, eh bien, on émule ce qu'on aime. L'horreur d'Internet est l'un des produits les plus uniques de la plateforme. Ça repose pleinement sur des codes issus d'autres formes d'expression que l'on aime, comme le cinéma, le JV, mais, comme on a pu le prouver plus tôt, ça s'articule à travers des formes qui lui sont intrinsèques. Et quoi de mieux pour parler des générations d'entre-deux, celles qui ont un rapport au digital hyper fort, mais pas assez non plus pour être entièrement définies par ça? Voilà, on arrive vers l'horreur d'Internet, qu'on le veuille ou non. Et quand on grandit, qu'on découvre d'autres formes d'expression qui correspondent un peu plus à nos volontés créatives, eh bien, on avance, on change, mais tout en gardant ces images près du cœur. On fait des chansons, des films, on fait des podcasts sur Radio Campus Paris que personne n'écoute à part un random dans sa bagnole et mon pote Nico. Sans Slenderman, y a pas concrètement. Croyez-le ou non. Avoir grandi avec l'horreur d'Internet, ça veut dire qu'on a grandi dans des temps uniques. Des années métamorphes, guidées par l'immensité de milliards et milliards d'êtres humains connectés les uns aux autres, prenant nos pires angoisses comme forme finale. Comment ne pas vouloir la réemployer pour informer la voix de notre génération? En attendant qu'Internet nous prouve qu'on a eu tort de lui faire confiance, en attendant qu'un nouveau messie de la Gen Z nous montre qu'on n'a encore rien vu en termes d'horreur, en attendant qu'Enac puisse lancer son podcast, je vous dis merci de votre écoute et à la prochaine pour un nouvel épisode. Ouais, ouais, c'est toujours aussi dur de faire un générique, ça a pas changé. Donc, comme toujours, un peu à l'arrache, les blazes, à la réalisation, à l'écriture et à la voix, Noé le prêtre. À l'écriture et à la voix, Enak Doji. À l'écriture et à la voix, Souil Mankouri. Et à la communication, Lisa Texera. Et pour le reste, comme toujours, à la chance ou au catalogue de l'Assassin.